Nietzsche, Franz Kafka. Du 27 au 28 janvier 1913. En ce moment, chérie, tu devrais être là. Étrange invitation, il est déjà plus de minuit. Nous passerions une belle soirée si tranquille que finalement tu ne serais pas trop rassurée. Dis-moi, pauvre chérie, quel effet cela fait-il d'être aimée de cette façon? Je ne voudrais rien que te tenir les mains et sentir ta présence. Modeste souhait? Et pourtant, il ne transperce ni le lointain, ni la nuit. Grand merci pour ta liste de références. C'est cette liste qui n'a pas plu à Nebel? Et il ne se trouve pas de pied pour lui donner le coup qui s'impose? Je n'ai pas encore lu le livre jusqu'au bout, en vertu d'un hypocondrie à quoi vos futurs clients ne seront sûrement pas soumis. Et je recule devant des caractères aussi petits. Mais je n'en ai pas moins déjà lu que je suis arrivé trop tard en te conseillant de combiner le parle avec le téléphone. Et j'en ai été fier des jours entiers. Donc, cela existe déjà et ne peut pas s'appliquer sur une plus grande échelle. Pour les conversations importantes des banques, des agences, etc., qui doivent être prises avec une exactitude scrupuleuse, partout où il s'agit de noter les cotations les plus précises ou des déclarations de témoins, le parlographe devrait pourtant être indispensable. L'employé tiendrait l'un des écouteurs, l'autre serait relié au parlographe, et de la sorte, la propre voix de l'interlocuteur prendrait la valeur d'un témoignage indiscutable. On pourrait peut-être encore soutenir la clarté et le caractère imposant de la liste en y joignant une feuille sur laquelle les acheteurs seraient classés selon la nature de leur entreprise, et où on donnerait, en même temps, un bref aperçu des services que le P, petit point, est capable de rendre, d'après les données des acheteurs eux-mêmes. Mais dans l'ensemble, c'est splendide tel quel. Et j'en suis si fier que je ne peux m'empêcher de te couvrir de baisers, tellement que tu regretterais d'avoir fait la liste si je te l'ai donnée dans la réalité. Il est vrai qu'on ne pouvait nullement le prévoir. Et la direction, moins que personne. Hier déjà, je voulais te dire combien je me réjouis que tu aies écrit à Sophie. Je vais la torturer énormément en lui demandant de me parler de toi, ce que je ferai bien entendu avec toute la délicatesse et la ruse qu'on peut attendre de mon habileté et de mon art de la conversation. Et quand ce ne serait pas le cas, il n'y a pas de mal à t'aimer, n'est-ce pas? Pas tant d'audace dans les questions. Franz.
Looking for love in all the wrong places. Looking for us in all the wrong faces. I'm always looking for lust when I'm wine drunk and faded. Looking for love, I think we should make it. Cause I've been feeling lonely. Hold me, tell me that you think I'm pretty. Show me. Told I'm too young to settle, but age ain't a thing, I'm just too sentimental. Looking for someone to write all the words to my instrumental. And if I give you my heart, promise you'll be gentle. Cause I've been lonely. Hold me, tell me that you think I'm pretty. Show me how to love, and then show me how love again. Oh, 'cause I've been feeling lonely.
du 29 au 30 janvier 1913. Il faut sans doute ranger dans la série des choses nouvelles qui me soient arrivées depuis l'été dernier le fait que je suis enfin devenu abondamment enrhumable, comme le sont les autres hommes, et que je m'enrhume sans en savoir la cause, et en dépit de cette peau endurcie et massée de mille façons. Ce qui me manque serait-ce en fin de compte le thé bouillant avec lequel, selon moi, il est vrai qu'après tous ces refroidissements, mon opinion n'est plus décisive. Ma chérie aime tellement s'énerver. Tu sais, il y a eu des époques où je voyais dans mon impossibilité de m'enrhumer un signe non négligeable de ma déchéance sans cesse accélérée. Que cette déchéance rapide fût un fait, j'en ai toujours été persuadé. Je me disais, l'impossibilité de m'enrhumer n'était naturellement qu'un signe parmi d'autres. Voilà comment je me détache peu à peu de la communauté des hommes. Je guettais toutes les occasions où je pouvais en trouver la preuve. J'échouais dans les moindres choses. Toutes mes craintes n'étaient pas confirmées, mais tous mes espoirs se trouvaient déçus. Si je m'entretenais avec quelqu'un des choses les plus indifférentes et qu'il détourna seulement un peu les yeux, je ne voyais aucun moment de ramener son visage à moi et de retenir ainsi son attention. Un jour, j'ai presque réussi à persuader Max, lequel d'ordinaire est complètement inaccessible aux états de ce genre, que les choses pour moi allaient de mal en pis et qu'aucun être, quand même il m'aimerait autant qu'on puisse imaginer, quand même il s'assiérait tout près de moi, me regarderait dans les yeux pour m'encourager ou même me prendrait dans ses bras, cela déjà par désespoir plus que par amour. Qu'aucun être donc ne serait d'une manière ou d'une autre en position de me sauver. Par suite, il fallait me laisser à moi-même. C'était d'ailleurs ce que j'aimais le mieux. Et pour le reste, il n'y avait plus qu'à me supporter dans la mesure des possibilités humaines. À cette époque, nous avons fait seuls tous les deux une excursion à Dobrychnovitch, une jolie localité aux environs de Prague où nous avons passé la nuit. Cet après-midi-là a été complètement gâté par la pluie. J'étais couché sur le canapé dans la chambre de Max. Nous avions deux chambres, car je ne puis dormir que seul dans une chambre séparée. Tu tiendras peut-être cela pour du courage, mais ce n'est que le fait d'un esprit timoré, qui raisonne comme suit. De même qu'on ne peut pas tomber quand on est couché par terre, de même quand on est seul, il ne peut rien vous arriver. J'étais tout somnolent sans parvenir toutefois à m'endormir. Et pour ne pas déranger Max, qui, installé à la table, commençait à achever la nouvelle dite Tchétchine, que tu as peut-être lu par la suite dans le Berliner Tagblatt, je ne voulais pas non plus garder les yeux ouverts. J'étais donc là, les yeux clos, à écouter avec ennui le bruit particulier de la pluie sur le toit et la terrasse de l'hôtel. Et je brûlais de voir Max terminer enfin son histoire. Il l'a d'ailleurs écrite à une allure insensée. Sa plume ne faisait que courir sur le papier. Afin de pouvoir me lever et m'étirer un peu, sans autre but, au demeurant, que de me redonner envie de me laisser de nouveau choir sur le canapé et d'y rester couché dans la même apathie. Voilà comment j'ai passé de nombreuses années. Et, si j'essaie d'examiner le passé de plus près, une infinité de journées. Ta main, chérie, afin que des journées plus belles adviennent aussi en nombre infini. Ta belle et chère main, dont je n'ose pourtant pas m'emparer. Franz. Du 28 février au 1er mars 1913. Il est tard, chérie, tard. J'ai fait un travail pour le bureau et c'est ainsi que le temps a passé. Et puis j'ai froid. Me serais-je encore enrhumé? C'est très dégoûtant. Mon côté gauche reçoit continuellement de l'air froid. Comment peux-tu dire que je pourrais me fâcher contre toi, rien que par une lettre manquante? Comprends donc. Et mets-toi bien dans la tête que je dois être reconnaissant de tout ce que tu me donnes, et que pour moi, comme au regard d'un juge suprême, un mot affectueux que tu me destines a plus de valeur que toute la masse de mes lettres. Harcelé comme tu l'es actuellement, ne va donc pas te forcer à écrire, si pour une lettre tu devais perdre, ne fût-ce qu'un peu du sommeil dont tu as tellement besoin. Laisse tranquillement passer un jour sans en faire, et sache que la prochaine, quel que soit le nombre de celles qui manquent, je l'attends ici d'un cœur inchangé. En cela, je suis inchangé, si vite que tout le reste fuit et change autour de moi. Ce soir, et même pendant la journée, j'étais plus calme et plus sûr de moi que d'habitude. Mais de nouveau, tout cela est perdu. Du reste, je voudrais bien voir l'homme qui supporterait sans dommage ma manière de vivre, et surtout, ces promenades solitaires que je fais chaque soir. À la maison, je ne parle à peu près à personne. Mes relations avec ma sœur, qui, en fin de compte reposaient principalement sur mon travail, se sont elles aussi bien relâchées. Toi et moi, nous vivons exactement aux deux pôles opposés. Toi, tu as continuellement des gens autour de toi, moi presque personne. Les gens du bureau entrent à peine en ligne de compte, surtout ces jours-ci où je dors davantage et où le travail ne me pèse pas autant. Il est exactement aussi indifférent que moi. Nous allons bien ensemble. Prochainement, je ne serai même pas nommé secrétaire adjoint. C'est bien fait pour moi. Dernièrement, je marchais dans la Eisengasse lorsque quelqu'un a dit à côté de moi « Que fait Karl ?» Je me retourne, je vois un homme qui continue sans se soucier de moi à soliloquer. C'était du reste en parlant tout seul qu'il avait posé cette question. Or, Karl est le nom du personnage principal de mon malheureux roman. Et ce passant anodin avait inconsciemment pour tâche de se moquer de moi, car je ne peux certes pas considérer cela comme un encouragement. Dernièrement, en relation avec la lettre de mon oncle, tu m'as demandé quels étaient mes projets et mes perspectives. Cette question m'a étonné. Elle me revient maintenant avec la question de cet inconnu. Bien entendu, je n'ai pas le moindre projet, pas la moindre perspective. Je ne peux pas entrer dans l'avenir. Me précipiter dans l'avenir, me laisser rouler dans l'avenir, trébucher dans l'avenir. Cela, je le peux. Et ce que je peux encore le mieux, c'est rester couché. Quant à des plans et à des perspectives, je n'en ai vraiment aucun. Si je vais bien, le présent me remplit entièrement. Si je vais mal, je maudis déjà le présent. Et combien plus encore l'avenir ? Franz. du 10 au 11 mars 1913. En quoi ai-je mérité ce carton de fleurs charmantes? Je ne me connais aucun mérite, et il aurait été bien plus séant pour moi de recevoir un carton avec un diable caché dedans. Un diable qui m'aurait pincé le nez et qui ne m'aurait plus lâché, de telle sorte que j'aurais dû le porter partout avec moi. Sais-tu qu'autrefois, je n'avais pas vraiment le sens des fleurs, et que même maintenant, je ne les apprécie au fond que lorsqu'elles viennent de toi, et seulement par l'intermédiaire de ton amour des fleurs. Depuis mon enfance, il y a toujours eu des époques où mon incompréhension des fleurs me rendait presque malheureux. Ce manque de sens se superpose à mon incompréhension de la musique. Du moins, ai-je souvent ressenti le lien. Je ne vois pas ce que les fleurs ont de beau. Une rose est pour moi une chose froide. Deux me semblent déjà trop pareils. Les bouquets composés me paraissent toujours arbitraires et ratés. Comme dans tous les cas où on se sent incapable de quelque chose, j'ai bien souvent, faim vis-à-vis des autres, une attirance particulière pour les fleurs. Et comme il arrive à toute incapacité consciente d'elle-même, j'ai réussi à tromper cette sorte de personnes qui ont pour les fleurs une attirance vague, impossible à déceler nulle part, dans leur manière d'être habituelle. Ma mère, par exemple, me tient sûrement pour un ami des fleurs, parce que j'en offre volontiers et que je frissonne presque d'horreur en voyant des fleurs corsetées de fil de fer. Mais ce fil de fer ne me gêne pas à proprement parler pour les fleurs. Je ne pense qu'à moi. Et c'est pourquoi ce petit bout de fer taillant dans la chair vive me paraît affreux. Je ne me serais peut-être même pas perçu que je suis à ce point un étranger parmi les fleurs si je n'avais eu vers la fin de mes années de lycée et pendant mes études à l'université un bon ami. Il s'appelait Ewald Prichbaum. C'est peut-être un nom de fleur, n'est-ce pas? Qui, sans être spécialement réceptif aux impressions subtiles, bien plus sans même avoir le sens de la musique, avait un tel amour des fleurs que lorsqu'il les regardait, les coupait, les arrosait, il avait un joli jardin. Lorsqu'il les mettait dans un vase, les tenait à la main ou me les donnait, que vais-je bien pouvoir en faire, me demandais-je souvent, tout en ne voulant pas le dire avec la dernière clarté. En général, naturellement, je le disais quand même. D'ailleurs, en cela, on ne pouvait pas le tromper. Il était positivement transfiguré par cet amour, à tel point qu'ensuite, il parlait autrement. Je dirais presque d'une voix plus sonore, malgré le petit défaut de prononciation dont il était affecté. Souvent, nous restions ainsi devant des parterres, lui à regarder les fleurs, moi à regarder ailleurs, avec ennui. Que dirait-il s'il me voyait maintenant sortir précautionneusement les fleurs du carton, les presser contre mon visage et être capable de les regarder longuement? Comment pourrais-je te remercier de tout ton amour et de ta bonté, Felice? Franz, écrit juste dessous et tout contre. Du 14 au 15 mars 1913. J'ai commencé avec un pâté, je ne change pas de feuille, pensant que même une tache mettra peut-être un peu plus de réalité dans mes lettres, qui deviennent de plus en plus irréelles. Tu ne t'en es donc pas aperçu, chérie, et de plus en plus dénué de fondement. Pour le reste, rien que quelques mots. Il est tard, une fois de plus. Je suis allé voir Der Andere avec Félix au cinématographe, puis je me suis promené. Je ne veux pas écrire plus longtemps pour éviter que ma matinée d'aujourd'hui me recommence demain. Sais-tu, chérie, mon chef au bureau me donne de la force dans son absolue fermeté. Je ne peux pas le suivre, mais je peux l'imiter, consciemment jusqu'à un certain point, inconsciemment jusqu'à un autre. En outre, je peux le regarder agir et m'accrocher à son exemple. Aujourd'hui, il était malade. Lorsqu'il est absent, il m'incombe de m'installer à son bureau le matin et à midi pour trier le courrier de toute la maison. Or, j'étais affalé comme mort dans ce fauteuil, sans voir ni entendre les gens qui entraient, je regardais fixement les lettres indifférentes en pesant que ma place était chez moi, au lit. Mais dites cela, je n'espérais pas même du lit, pas même d'un repos paisible au lit, le moindre soulagement. En fait, c'est bien facile à expliquer. Je dors peu, irrégulièrement et mal. Je ne sors presque pas. En tout et pour tout, je suis a priori mécontent de moi. Alors un beau jour, je me suis enfoncé, réduit à l'impotence, dans ce fauteuil. Que ta lettre d'aujourd'hui ne soit pas arrivée m'était presque incompréhensible. J'étais beaucoup trop faible pour en être malheureux ou inquiet, et je te le répète, chérie, si un jour tu n'as pas le temps d'écrire, je n'y attacherai aucune importance. Seulement, je ne comprenais pas très bien, et quoique je n'y eusse pas spécialement pensé, ce doit être aussi la raison de toutes ces heures que j'ai passées à ne rien faire. Et de toute la matinée, ça n'a guère été mieux. Je suis rentré comme un malade à la maison, j'avais continuellement devant les yeux l'idée du chemin qui me restait à parcourir. Mais je ne suis pas malade. En fait, on ne voit rien sur mon visage. Je n'ai qu'une ride à la racine du nez et une masse de plus en plus abondante de cheveux blancs qui commence à attirer vraiment l'attention. Ce soir, après avoir un peu dormi et m'être senti un peu transformé par Bassermann, je me suis même par moments senti très bien. Et nous, moi et Félix, nous étions faits aujourd'hui pour nous accorder. De Bassermann, je pourrais te parler très longtemps, si misérable que soit la pièce, et quel que soit l'abus qu'on y ait fait de Bassermann, et qu'il y ait fait de lui-même. Bonne nuit, chérie, et bon dimanche. Je mets dans tes yeux un bonjour pour ton papa. Franz.
I talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way, hey. Got up on the table, quick, just to take the game, no, no, no.